bienvenue sur l'antenne de Radio Imo. Ravi de vous retrouver ici à la Maison de la Chimie à Paris pour vous faire vivre cette 12e édition du Speed Dating de l'immobilier. Rendez-vous qui est incontournable, qui réunit à la fois des promoteurs, des bailleurs sociaux, des élus, des acteurs de la ville et des partenaires financiers autour d'un enjeu qui se veut évidemment majeur, c'est-à-dire faire sortir des projets malgré un marché sous tension et un contexte compliqué. C'est un doux euphémisme. Nouvelle interview à mes côtés en plateau, Benjamin Pinault. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Vous êtes le bienvenu. Directeur des relations investisseurs et de la transformation immobilière, Eiffage Immobilier. Bienvenue à vous encore une fois et merci de répondre à mes questions. Vous avez identifié le logement déplaçable comme l'un des grands sujets immobiliers d'aujourd'hui. Peut-être que ma première question, c'est de vous demander ce que l'on entend par immobilier déplaçable, logement déplaçable plutôt.
Alors tout d'abord, dans le logement déplaçable, il y a le mot logement, donc avec toutes les contraintes et les normes que l'on connaît aujourd'hui, qu'elles soient thermiques, acoustiques, environnementales. Donc on est vraiment dans du logement classique et déplaçable parce que ça doit répondre à un enjeu de société, un enjeu professionnel qui est que parfois les projets peuvent être temporaires. Et donc face à des besoins temporaires, il faut une réponse. Aujourd'hui, on a eu différents types de besoins qui se sont matérialisés à nous. On a eu d'abord le logement d'urgence. On a fait un premier projet pour répondre à ce besoin, pour héberger temporairement des familles qui étaient à la rue. Et on se rend compte qu'avec les très grand projet, on a la chance d'être dans un groupe, dans le groupe Eiffage, qui gagne des chantiers de taille majeure, comme la centrale nucléaire de Penly. Il faut répondre à un besoin qui est le déplacement de population en lien avec un grand chantier. Et donc, on doit y répondre en tant qu'Eiffage Immobilier pour apporter des solutions au groupe.
Alors oui, on parle d'hébergement d'urgence. Vous le citiez, 75 logements déplaçables, c'est ça, 160 personnes hébergées, la fin des nuitées d'hôtel. Qu'est-ce que ça a changé, ce projet, pour un groupe comme Eiffage?
Tout d'abord, quand on a démarré ce projet, on s'est rendu compte qu'on avait des fonciers qui dormaient en attente de mutation. Et donc, on s'est dit comment utiliser ces terrains qui étaient en attente. Donc, on a travaillé avec le patrimoine du groupe pour prendre un terrain. On a déposé un permis de construire précaire qui nous permettait de nous exonérer des règles du PLU. Et on a développé une opération de logement déplaçable en lien avec la ville de Valenton, qui s'appelle la résidence La Fontaine, avec Adoma et les services de l'État, pour proposer d'autres solutions d'hébergement à ces nuitées hôtelières donc que l'État consomme de façon forte, mais qui n'a pas d'autre choix pour mettre les gens à l'abri. Et donc ça a permis de créer des logements avec des kitchenettes, avec plus d'espace pour les enfants, avec des espaces communs pour que les travailleurs sociaux puissent faire leur mission d'accompagnement. Et on a développé ce projet. Nous, on est foncières de ce projet. On n'a pas trouvé d'investisseur, donc on a décidé d'aller tout au bout de la chaîne de valeur, d'aller jusqu'à garder les modules qu'on a créés avec nos usines de la filière hors site d'Eiffage. Et dans 7 ans, donc là il reste 5 ans au projet, on démontera le site et on récupérera les modules pour en faire un nouveau projet.
Alors on parle d'un autre projet d'ampleur, vous l'avez évoqué très brièvement aussi, c'est pour la centrale nucléaire de Paluel, on est en Seine-Maritime. Là aussi, ce sont combien de logements déplaçables et puis pour combien de salariés concernés?
Eiffage a gagné l'an dernier la centrale nucléaire de Penly, qui a un marché de plus de 4 milliards pour le groupe. La centrale nucléaire de Penly va mobiliser au plus haut du chantier à peu près environ 7000 salariés. La plus grande partie viendra du groupe Eiffage pour construire notamment le génie civil nucléaire. Et donc face à ce besoin, on est dans un espace où on est plutôt avec des maisons individuelles, des champs agricoles. Et donc il faut répondre à un besoin temporaire d'hébergement. Et donc le groupe Eiffage va s'engager pour construire environ 1000 logements déplaçables temporaires pour héberger l'ensemble des salariés qui en auront besoin pour construire la centrale nucléaire de Penly. Et là, pareil, nous ferons l'exploitation et nous garderons les logements en patrimoine pour réussir ces projets.
Face à un projet d'une telle ampleur, j'imagine que les contraintes techniques, elles doivent se présenter en nombre, techniques ou réglementaires d'ailleurs, urbanistiques. On essaye de faire avec tout ça.
Exactement, il y a énormément de contraintes. On est là temporairement, donc on doit respecter l'environnement, le déjà là qui est présent sur le terrain. Donc on loue temporairement une terre agricole. À partir de là, il faudra la remettre en état. Donc c'est vraiment il faut énormément anticiper cette transformation et donc prévoir le démontage, prévoir ce que sera la vie d'après. Et donc c'est un énorme enjeu, même si on va rester une dizaine d'années, il faut énormément anticiper toutes ces contraintes pour être prêt à repartir à la fin du projet.
Est-ce que le logement déplaçable peut devenir finalement à court terme une nouvelle manière de produire de l'immobilier?
Moi, je pense oui, puisqu'on arrive dans un monde où il y a des grands projets, on arrive dans un monde où il y a des besoins temporaires, on arrive dans un monde avec des catastrophes naturelles, malheureusement de plus en plus fréquentes, où il faudra protéger, héberger, trouver des solutions pour les gens. Les campings ne seront pas tout le temps la solution à tout. On l'a vu avec les tempêtes que la France a connues dans les années précédentes. Donc nous, on pense vraiment qu'une solution de logement déplaçable peut faire partie demain de la palette d'un promoteur qui devra répondre à l'ensemble des besoins des Français. Et dans la chaîne de valeur du logement, la première étape, c'était l'hébergement d'urgence. C'est pour ça qu'on a commencé. commencer par là.
Alors, on vient de parler du déplaçable. On peut peut-être parler aussi maintenant du transformable, notamment avec un chantier d'ampleur, évidemment, qui nous revient tous en tête, puisque c'est le village des athlètes des Jeux Olympiques que vous avez réalisé, et vous me dites si je me trompe, avec Next City et la Caisse des dépôts. Avec la transformation, je crois, de T4 en T5, retirer des cuisines. Qu'est-ce que ce projet, finalement, vous a appris sur la modularité, par exemple?
C'était l'anticipation des plans des logements pour prévoir cette première vie qui était la vie des Jeux Olympiques, où effectivement les logements n'avaient pas de cuisine puisque tous les athlètes devaient se restaurer au même endroit. Donc on avait réutilisé l'espace des logements pour créer plus de chambres, pour héberger plus d'athlètes. Et à la fin, c'est déplacer des cloisons, remettre en état les logements, les retransformer pour les remettre à disposition des bailleurs qui en ont acheté, de l'accession qui s'est vendue. Et cette transformation, ça nécessitait un vrai travail d'anticipation et de remise en état pour permettre cette deuxième vie et que le village olympique continue de vivre au-delà des JO.
C'est un vrai savoir-faire finalement que vous avez acquis, du transformable vers du logement, on va dire, classique. Est-ce que c'est transposable aujourd'hui dans d'autres de vos projets?
Dans le cadre de la centrale nucléaire, on fera encore, dans le même esprit, à Dieppe, un projet transformable là aussi, pour notamment, dans la première vie, héberger les salariés. Donc on va augmenter la capacité en termes de nombre de chambres, puis derrière, ça sera remis à disposition d'un bailleur social qui lui réutilisera les logements de façon plus classique dans des T4, des T5, des T3 qu'on a l'habitude de voir dans le monde de l'immobilier. Donc oui, on a beaucoup appris. Je pense qu'il faut de plus en plus s'adapter. Je pense que même les logements doivent s'adapter, les familles évoluent, la sociologie de nos clients évolue et donc il faut s'adapter à la composition des ménages français. Et donc ça fait partie de cette modularité qu'on doit avoir.
Benjamin, on a eu l'occasion d'échanger ensemble pour préparer notamment cet entretien. Et vous m'avez dit une chose intéressante, que les friches tertiaires étaient devenues le nouveau mur à affronter, les friches tertiaires, comme l'ont été dans le temps les friches industrielles des années 90. Qu'est-ce qui rend leur transformation si urgente finalement aujourd'hui?
On se rend compte que le nombre de mètres carrés vacants tertiaires ne fait qu'augmenter d'année en année. Et en face de ça, on a un besoin de plus en plus fort de logements avec une rareté du foncier qui est maximale en ce moment, avec l'ensemble des règles environnementales nécessaires qui augmentent. Et donc face à ça, il faut réfléchir à cette transformation. Tous les immeubles ne s'y prêtent pas, on le sait. Et donc il faut être capable d'anticiper. Et une des premiers freins, c'est l'existant. Comment on achète l'existant pour le transformer avec cette mutation en immobilier qui est assez longue avec les permis de construire, les autorisations. Et donc c'est tout ce portage financier qu'il faut mettre en fonctionnement pour réussir ces transformations.
Alors, à titre d'exemple, on peut peut-être prendre la transformation d'une tour de bureau et je pense notamment à Bagnolet. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet-là?
Exactement. L'histoire de la tour, on est en train de réaliser une première grande transformation d'ampleur avec la tour Gallieni sur Bagnolet où, à la base, on a racheté un immeuble de bureau obsolète qui était multipropriétaire, donc c'était un remembrement qui était assez long et aujourd'hui on est en train de la transformer pour en faire du logement étudiant et face à ce besoin qui est très fort en Île-de-France. Et donc toute cette complicité juridique, financière, on l'a vécu et c'est des aventures qui sont assez complexes et qui nécessitent de remettre beaucoup de financiarisation malheureusement dans l'immobilier et énormément de technique. La technique va redevenir un enjeu majeur pour les années à venir dans le cadre de la transformation immobilière.
Et justement, si on parle sur cette tour-là, par exemple, des défis techniques et financiers, lesquels ont été identifiés principalement?
Le premier, c'est le portage. Là aussi, on a le remembrement a nécessité qu'on garde la tour en patrimoine plusieurs années. Donc ça, ça nécessite d'avoir une capacité financière pour porter ces projets de transformation. Et derrière, c'est l'anticipation de toute la technique d'un immeuble qui n'était absolument pas pensé pour du logement. Et donc, remettre énormément de technique dans l'immeuble, le désamianter, le transformer. Et tout ça, ça nécessite, heureusement, qu'on a la chance d'être adossé à notre constructeur qui est FH Construction, parce que la technique devient un enjeu. Et on est très content de l'avoir en interne.
Oui, vous êtes content de l'avoir en interne et vous avez bien raison, parce que beaucoup de promoteurs aussi classiques, entre guillemets, ne peuvent pas forcément assumer ce type de transformation. D'ailleurs, qui sait véritablement faire ça aujourd'hui en France?
Je pense que de nombreuses personnes l'ont tenté avec des réussites plus ou moins fortes. Et donc aujourd'hui, la difficulté, c'est malgré l'expérience, il y a toujours énormément de surprises. Et la préparation technique est fondamentale pour bien appréhender un actif et être capable de le transformer, de le réussir, puisque on n'a pas le droit à l'erreur sur les transformations d'actifs. Ça peut vraiment très vite déraper en termes de coûts, en termes de délais et en termes de rentabilité. Ça peut mettre un acteur en grande difficulté.
Pour financer ces transformations qu'on dit lourdes, il y a les fonds opportunistes, la FTI, la foncière de transformation immobilière d'Action Logement. finalement, il n'y a pas tellement d'acteurs.
Non. Moi, je trouve que ce que fait la FTI avec sa foncière de transformation immobilière, c'est vraiment intéressant et ça permet à la fois de nous aider sur le portage de l'actif, de nous permettre de créer du logement pour tous avec les filiales d'Action Logement. Donc, c'est une très bonne initiative. Nous, on a réalisé plusieurs projets avec eux. Et après, dans le logement, un peu, il y a dans les actifs qu'on peut transformer, il y a aussi tous ces fonds valuables qui cherchent à créer de la valeur et heureusement aussi qui sont là pour prendre une part de risque dans ces sujets de transformation. Mais petit à petit, on voit des initiatives émerger au travers de la Fondation Palladio qui sont extrêmement intéressantes pour aller vers la transformation d'actifs et la généraliser.
Oui, Palladio, c'est un groupe qui réfléchit au fléchage de l'épargne française. 9 milliards d'euros vers la transformation immobilière. Voilà pour un chiffre. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, qu'une part du livret A ou du LDD finance quelque part un jour ces transformations lourdes?
Je pense aussi, on ne veut pas que des quartiers entiers de villes qui étaient à la base des très beaux quartiers d'affaires dans les années 90, 80, 2000 se retrouvent complètement abandonnés. L'initiative de la Fondation Palladio est extrêmement intéressante. En France, le livret A peut financer le logement, est utilisé pour financer du logement social. Mmh. Le LDD, le livret de développement d'épargne solidaire, permet de financer des actions de l'économie sociale et solidaire. L'initiative de la Fondation Palladio, c'est aujourd'hui l'épargne des Français est au plus haut. Comment flécher une partie de cette épargne dans des actions de transformation immobilière, de friche tertiaire, pour permettre de recréer du logement et que l'épargne des Français soit utilisée pour loger aussi les Français. Donc c'est une initiative extrêmement intéressante et utiliser une partie de ce capital pour transformer ces actifs. Moi, je pense qu'on serait sur la bonne voie avec ce type d'initiative.
Alors, vous avez un rôle qui est un peu particulier parce que vous êtes à la fois à l'intersection des investisseurs, des fonds, des équipes opérationnelles, des contraintes PLU, des obligations aussi techniques, des phages construction. Comment est-ce que finalement vous arrivez ici, devant moi, à décrire quelque part votre job, votre métier ?
Je pense que j'ai beaucoup de chance d'arriver à un moment où l'immobilier devient de plus en plus complexe, donc il faut être extrêmement créatif et faire parler l'ensemble des intervenants pour aller dans la convergence et la réussite d'un projet. Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup plus d'intervenants pour réussir. Chacun a son rôle à jouer et donc l'idée, c'est d'arriver à mixer l'ensemble des intérêts de tous ces parties prenantes pour faire sortir un projet. Et donc cette complexité amène beaucoup de coordination, beaucoup plus d'intelligence dans nos projets et être capable de bien parler le langage de chacun pour faire en sorte que chacun trouve son intérêt et puis qu'on puisse sortir l'affaire. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité de sortir seul des affaires. On a besoin de toutes ces parties prenantes et il faut qu'on arrive à chacun trouver notre équilibre pour continuer à produire du logement qui est une mission fondamentale pour notre pays. Parce que sans logement, c'est quand même on va aller devant de très grosses difficultés.
On a des raisons de rester optimiste ?
Bien sûr qu'on a des raisons de rester optimiste, parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à transformer. Il faut être créatif, il faut savoir être patient aussi, parce que l'immobilier, c'est du temps long. Mais bien sûr qu'on a beaucoup de chance d'être dans un pays comme la France et d'avoir une quantité d'opportunités et de développement qui sont devant nous. Et il va falloir y répondre.
Benjamin Pinault, ce sera ma dernière question et je vous remercie évidemment. C'est quoi pour vous l'intérêt d'être présent sur ce type d'événement, le 12e speed dating de l'immobilier?
Je trouve que ce que fait la Banque Arkéa, c'est extrêmement intéressant de mixer l'ensemble de ces mondes de l'immobilier, que ce soit promoteur, investisseur, financeur. Ça permet de croiser énormément de gens dans un même lieu. Et donc pour nous, moi je trouve que c'est exactement ça aujourd'hui, l'immobilier d'aujourd'hui, c'est être capable de rencontrer l'ensemble de ces parties prenantes pour faire avancer nos projets et en créer de nouveaux. Donc je trouve l'événement extrêmement intéressant, c'est pour ça qu'on y est présent.
Un grand merci à vous, Benjamin.
Avec grand plaisir.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci également de nous avoir suivis. Cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, dans le cadre de cette 12e édition, vous pouvez les retrouver en replay depuis notre application, notre site internet sur Radio Immo. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite.